RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît pour TV5 Monde, Fatima Tawane Sagna de France 24 et puis David Tombiano de People TV, une agence de télévision. Et dans cette édition, la Côte d'Ivoire, à propos d'une part de la mutinerie militaire qui a secoué pendant près de deux jours le pays, d'autre part de cette mise en place de l'exécutif rénové avec l'entrée en scène d'un vice-président. Et puis on parlera des manifestations dans des capitales africaines, mais aussi européennes, pour réclamer la fin du franc CFA, une monnaie africaine sous tutelle française depuis 1945. Alors d'abord, cette fronde militaire en Côte d'Ivoire, elle a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, de la semaine dernière, à Bouaké, la deuxième ville du pays, ex-fief des rebelles des forces nouvelles. En moins de 48 heures, eh bien, le pouvoir conclut un accord avec les mutins, avec la promesse de satisfaire leurs revendications surtout d'ordre matériel. Le retour ce vendredi à Bouaké du ministre délégué à la Défense, Alain Richard Donvani, est prévu en vue de consolider cet accord. Pierre Benoît, ce coup de sang des militaires ivoiriens a provoqué une grosse frayeur et réveillé de mauvais souvenirs parmi la population. Alors, contrairement à l'ex-président Henri Konan Bédier, qui avait traité par le mépris fin décembre 1999 des remous dans l'armée, il a fini d'ailleurs par être évincé par cette armée, eh bien, Alassane Ouattara s'est empressé de conclure rapidement un accord donc et fait des promesses à ses mutins. Trois hauts gradés ont été limogés, des lampistes selon certains. Alors, reste que cette affaire démontre combien les pouvoirs africains sont à la merci de ceux qui détiennent les armes.
La célérité de la réaction du président Ouattara s'explique tout simplement parce qu'il sait ce qu'il leur doit à ces militaires. C'est quand même ce mouvement militaire qui a porté au pouvoir et qui a permis de faire la décision contre Laurent Gbagbo qui était en place. Et donc, il y a d'un côté une réaction politique d'urgence, mais aussi un manque de vision et de prévision complète de la part du président Ouattara, qui commence son deuxième mandat dans l'urgence, avec un train de réforme constitutionnelle très important, puisqu'il présidentialise complètement le régime ivoirien. Cette troisième république, elle lui permet, avec le système du vice-président, d'avoir un ticket à l'américaine, mais ça n'a pas empêché à la fois de répondre à la revendication des mutins, mais aussi d'accélérer ses réformes et de suivre un peu son train-train comme si de rien. Alors que derrière cette mutinerie, au-delà même du fait que trois chefs militaires importants ont été limogés...
Enfin, le gendarme, un policier et le chef d'état-major.
Voilà, c'était un peu pour faire bonne mesure, mais simplement, c'est finalement l'ensemble de la Côte d'Ivoire, des classes moyennes urbaines qui n'ont pas bénéficié depuis tout le premier mandat de Ouattara, des retombées du développement économique. Finalement, c'est le pays qui s'exprime aussi à travers ce mécontentement.
Alors, la Côte d'Ivoire n'a jamais véritablement eu, David Tombiano, une véritable armée. On se souvient que Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance, ne voulait pas d'armée, tout simplement parce qu'il ne voulait pas être renversé par cette armée. Il se barricadait derrière le bouclier militaire français, avec d'ailleurs des militaires toujours déployés depuis l'époque en Côte d'Ivoire. Alors, si les choses avaient dégénéré, Alassane Ouattara se serait, dit-on, barricadé lui derrière le parapluie de la MUNICI, la force onusienne, les casques bleus de l'ONU. Bref, tout ça augure d'un avenir plutôt incertain.
Incertain, parce qu'il faut se poser aussi cette question. Donc, la Troisième République de la Côte d'Ivoire, qui s'inaugure dans une ambiance de crépitement d'armes, ça pose véritablement...
Oui, il y a eu des tirs. Il n'y a pas de victimes, mais il y a eu des tirs.
Il y a eu des tirs. Alors, donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est la gâchette qui va toujours dicter le cours de l'histoire? Ça, c'est la grande question. Et cela sème un certain doute sur la lecture que l'on se faisait de la Côte d'Ivoire, qui a réussi en quelques années à se remettre debout après 10 années de guerre, de partition.
Nous dit-on, sur le plan économique.
Sur le plan économique. On a organisé même des débats pour se poser la question sur qu'est-ce qu'on va faire de la croissance ivoirienne. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que la République est fondée sur un socle solide? Avec cette situation, il y a lieu de se poser effectivement des questions.
Oui, finalement, cette mutinerie, elle jette un regard très, très cru sur la nature du développement et le fonctionnement global de la société ivoirienne à l'issue du premier mandat de Ouattara, parce qu'on a l'impression, un peu comme De Gaulle, l'intendance suivra. C'est-à-dire, en gros, il a une croissance à 6, 7, 8%. Il
y a des... Mais on voit bien que c'est pas Manhattan une croissance inclusive.
Il est en train, voilà,
tout le monde n'en bénéficie pas.
Il y a Manhattan qui est en train de se faire sur Abidjan. Mais, en fait, toute une partie de la société, des classes moyennes urbaines, qui sont en retard. Et je pense que, à la fois, cette armée, elle lui doit tout au niveau du pouvoir politique. Mais on a dit pendant des années que les comzones se mettaient plein d'argent dans les poches, etc. La vérité, c'est que le reste, ce qui n'est pas faux.
Mais il n'y a que les chefs.
Certains ont du sang sur les mains par rapport à la période de la guerre civile. Mais la vérité, c'est que la grande partie de la troupe, de l'encadrement intermédiaire, les soldes ne sont pas payés, etc. Et donc, l'intendance ne suit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas une armée démocratique qui fonctionne avec des rouages bien établis. Et voilà.
Fatimata.
Juste une chose, je signale qu'il y a eu un audit qui a été demandé par le président Ouattara concernant cette armée et l'intégration des ex-rebelles, ouais. Et que cet audit a été remis, nous étions au forum de Dakar Pays aux Sécurités, ouais, au mois absolument. De décembre, ouais. Juste avant décembre, pour lui dire « tout va bien, ah bon. Monsieur le Président ».
Et on voit que... Preuve que les rapports sont toujours optimistes. Alors, RFI TV 5 Monde, Afrique Presse, toujours dans l'actualité ivoirienne, cette mise en place d'un nouvel exécutif, Pierre Benoît, du pays, un pouvoir à trois têtes désormais, avec l'entrée en scène d'un vice-président, une fonction qui a été dévolue à Daniel Cablan Duncan, le Premier ministre sortant. Alors, en vertu de la Constitution, de la toute nouvelle Troisième République de Côte d'Ivoire, eh bien, c'est ce vice-président qui est désormais le dauphin constitutionnel du chef de l'État, en lieu et place du président de l'Assemblée nationale. On redistribue les cartes politiques.
Absolument.
Avec une frustration de Soro. Quoi.
Bien entendu, puisque ce qui s'est passé dans le passage à cette Troisième République, donc entre le mandat numéro 1 et le mandat numéro 2 du président Ouattara, c'est que Guillaume Soro n'est plus le numéro 2 du régime, il est devenu le numéro 3. Il a perdu une place. Et donc, le système à l'américaine qu'il a voulu, finalement, c'est une présidentialisation complète du système, avec l'apparition aussi d'un Sénat qui permettra de représenter les régions, la noblesse locale, etc., etc. Mais de toute façon, ce qui est très important, c'est la concentration du pouvoir et le fait que la présidence est omnipotente. Hein, puisque même dans la réforme, à l'issue de la réforme, il y a un nouveau cabinet qui s'est mis en place. Quatre ministres sont des ministres directement délégués auprès de la présidence.
Y compris le ministre de la Défense.
Voilà. Donc les ministères régaliens sont entre les mains du président. Le vice-président Daniel Cablan Duncan est un proche, un fidèle, mais alors pratiquement le frère de Ouattara, d'une certaine façon, en tout cas son frère politique. Et Guillaume Soro a perdu un cran dans l'ordre protocolaire. Et ça dit tout. Ça dit tout parce que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on l'a déjà dit au début de l'émission, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec le développement économique qui est une réalité. Voilà. Il faut redistribuer et faire tourner le pays d'une autre manière.
Alors, on dit que, Fatimata, que l'affaire n'est pas terminée parce que Guillaume Soro, on lui avait fait la promesse. On lui avait fait la promesse. N'oublions pas qu'il a été Premier ministre et ministre de la Défense d'Alassane Ouattara au moment le plus chaud, si je puis dire, de la crise post-électorale. Et on lui avait promis d'être le dauphin, le successeur d'Alassane Ouattara. Et là, maintenant, il voit les trains passer, ou le train passer.
Absolument. Et là, alors si ce n'est pas une disgrâce, ça y ressemble en tout cas. Hein. Curieusement, on peut dire que...
Mais il a été réélu haut la main à la tête de l'Assemblée nationale.
Absolument. Il a été réélu, donc il n'est pas contesté au sein de l'Assemblée nationale, et de toute façon il s'est assuré en mettant ses hommes un peu partout, hein, voilà, que ce soit dans les provinces, même pour le Sénat, un peu partout, même dans les pays étrangers, me dit-on, donc dans les chancelleries, etc. Donc il prépare, et de longue date, hein, ce dauphinat dont il pense que ça lui revient. Voilà, c'est que Guillaume Soro a choisi Ouattara au moment où certains ont fait d'autres choix. Il a assumé son choix et ça fait très longtemps, malgré son jeune âge, qu'il se prépare pour cet avenir qu'il estime lui revenir, en fait, tout simplement. Donc, cette vice-présidence, qu'il a bien perçue comme étant un piège ou un pied de nez, parce que Au final, tout allait bien, Madame la Marquise. Hein. Il était président de l'Assemblée nationale, il était numéro 2. Il pensait que naturellement, il allait être le dauphin et qu'il allait lui succéder.
Autrement dit, si je vous comprends bien, c'est que Guillaume Soro a une conception révolutionnaire du pouvoir. C'est-à-dire, il a aidé effectivement, avec les forces nouvelles, Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo et que par conséquent, il doit forcément lui succéder.
Absolument. Et il fait tout pour. Hein. Politiquement, il s'investit. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus le chef de guerre rebelle d'aucun décrirait en balayant de la forme. Il a mis de son poids politique pour pouvoir s'assurer d'obtenir ce Dauphinat qu'il n'a pas eu. Et pour cause, il est cerné de d'ennuis judiciaires de partout, le pauvre.
Donc, Burkina Faso.
Burkina Faso, 2005, les violations de droits de l'homme.
Ça lui a été fatal. Hein.
Il est l'histoire sur la liste de l'ONU.
Des échos téléphoniques fatales.
Voilà. Ça ne peut pas être aussi.
Oui. Voilà. Mais juste une chose, il ne faut pas non plus le mettre sur un piédestal au niveau tactique, stratégique, intellectuel, parce que cette affaire du Burkina Faso... en parlant de Soro, parce que finalement, c'est une faute d'analyse magistrale. La vérité, c'est que le président Ouattara veut tourner la page complètement de la phase de la guerre civile avec Laurent Gbagbo parce qu'il sait très bien aussi
c'est dans l'intérêt du pays d'ailleurs
ce qu'il doit de l'appui de Blaise Compaoré aux forces nouvelles etc. Et donc quelqu'un qui vient lui rappeler brusquement sur une maladresse invraisemblable qu'il y a eu des écoutes téléphoniques entre Djibril Bassolé le ministre de la Défense et Guillaume Soro, c'est une catastrophe pour lui. Voilà, donc il a fait une faute grave.
Un mot sur Amadou Gon Koulibaly, hein, qui est donc le Premier ministre, ancien secrétaire général de la présidence, dit-on, l'homme qui monte également, voilà aussi un rival implicite de Guillaume Soro.
Mais il n'est pas le seul, on parle de Amadou Bakayoko,
le ministre de l'Intérieur, l'indéboulonnable.
Tout le problème, c'est de voir comment rééquilibrer les différentes forces qui ont porté Alassane Ouattara au pouvoir. Il y a le PDCI, il y a les anciennes forces nouvelles, mais il y a aussi les partisans de Robert Guéï qui étaient là. Et toutes ces forces se mobilisent. Il y a comme une rivalité.
On a l'impression que le pouvoir d'Alassane Ouattara procède du pacte avec le diable. Voilà. RFI, TV5 Monde, dans le dernier volet d'Afrique Presse, le mouvement anti-français CFA qui prend de l'ampleur. Hein, samedi dernier, on a manifesté à Dakar, Abidjan, Ouida, c'est au Bénin, ancien port esclavagiste, à Kinshasa, Paris, Londres ou bien encore Bruxelles pour réclamer la fin de cette monnaie. On écoute Madame Dramane Traoré Aminata de son prénom, ancienne ministre et altermondialiste malienne.
Nulle part au monde, vous n'avez des anciennes colonies qui dépendent, qui continuent justement d'être liées à l'ancienne puissance colonisatrice par une monnaie. Il est extrêmement important que de populariser ces débats, de démocratiser ce débat, que les dirigeants africains ne soient plus piégés dans des tête-à-tête avec des dominants et sur des bases, des clauses toujours cachées. Et l'un de ces accords que nous dénonçons également, dans ce cas je parle de panier d'accords, c'est les accords de partenariat économique. Alors quand vous mettez tout ça bout à bout, on vous impose des accords de réadmission de vos enfants dont on ne veut pas là-bas, alors que l'argent est là-bas, les richesses vont vers là-bas. On vous impose l'accord monétaire, des accords de défense, et tout ce qui se fait, c'est d'une telle complexité que les gens ne savent pas. On ne sait pas à quelle sauce nous sommes mangés. Donc je crois que c'est une étape importante en termes de prise de position par les sociétés civiles africaines.
Voilà, une nouvelle critique tranquille d'Aminata Traoré à propos des relations qu'elle trouve pas toujours ajustées ou équilibrées entre la France et ses anciennes colonies. Le franc CFA, en tout cas, une monnaie coloniale, en effet, créée en 1945 par la France et en usage, Pierre Benoît, hein, dans 14 anciennes colonies françaises plus la Guinée équatoriale, une monnaie sous tutelle de la Banque de France qui coûte très cher aux États africains, une bonne partie de leurs réserves est consigné à la Banque de France pour servir de garantie, autrement dit le dollar, le yen, etc., etc. Les billets et pièces de monnaie de francs CFA sont aussi fournis exclusivement par la Banque de France. N'en jetons plus. Et puis les détracteurs du franc CFA, qui est adossé à l'euro, dénoncent à la fois Pierre Benoît une hérésie financière et économique et une forme de perpétuation, comme le dit implicitement Madame Traoré, une perpétuation de la domination française sur son ex-empire colonial.
Oui, mais Aminata Traoré, dans son rôle, on a entendu ce discours depuis 25 ans maintenant, donc il n'y a pas de surprise. Ce qui est extraordinaire dans ce débat, qui est un vrai débat, c'est qu'il est biaisé d'entrée de jeu. D'un côté, il y a une réalité, une première réalité, c'est la dimension néocoloniale de l'affaire. Évidemment, puisque les termes sont posés sur la table, c'est le franc qui est adossé à un groupe de pays africains. Donc déjà, on est sur une réalité néocoloniale. Si on ajoute en plus les accords de défense et bref, un niveau de coopération qui est malsain entre l'ancienne colonie et les pays africains en question, on a un tableau absolument catastrophique. Mais d'un autre côté, l'autre réalité, c'est que ce CFA, il assure une fluidité des échanges sur 14 pays du continent africain, une parité fixe, une dimension de stabilité qui est une réalité très forte et qui coûte très cher, mais qui est une vraie réalité. Donc la question qui est posée, c'est les pays africains ont-ils la capacité, la volonté politique de se réunir sur une base monétaire, budgétaire et financière, et de transformer ce CFA en quelque chose qu'il gérerait directement. Est-ce que la CEDEAO et l'Afrique centrale sont en capacité de le faire? C'est ça la vérité. C'est le défi qui est posé aux pays africains qui posent ce problème en termes idéologiques et politiques. Il n'y a pratiquement pas de débat sur la dimension idéologique et politique. Même des régimes, disons, conservateurs, actuellement au pouvoir, à Abidjan ou ailleurs, admettent la dimension néocoloniale de
la dimension gênante.
Donc il faut faire cette réforme et ça c'est une autre paire de manches.
Alors justement, Fatimata, Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais qui n'avait pas sa langue dans la poche, disait ok, c'est parfaitement légitime de réclamer la fin du franc CFA, mais le problème c'est qu'il disait que les pays africains ne s'entendront jamais entre eux pour avoir une monnaie commune. Par ailleurs, surtout, il ne respecterait pas l'indépendance de la banque centrale qui aura à gérer cette monnaie. Or, par exemple, si tel pays décide d'évaluer, ce sera par-dessus la banque, etc., etc., et que finalement, tout ça va se traduire par l'existence d'une monnaie de singe et non autre chose.
Oui, alors, dans ces cas-là, on rejoint la critique des anti-CFA qui disent, c'est une façon de dire, vous les Africains, c'est simple, vous n'êtes pas capables de vous mettre d'accord autour d'un projet de monnaie unique. Rappelons quand même que battre sa monnaie, ça fait partie d'un
droit de la souveraineté nationale.
Bah oui. C'est un droit régalien, constitutionnellement, ça prouve.
Mais le franc CFA n'est pas imposé par la France. La Guinée équatoriale l'a récemment réclamé. Absolument. Le Mali qui avait quitté le franc CFA a rallié le franc CFA.
Mais ceci dit, le franc CFA, c'est pas la panacée, hein. Que soyons certains, ça veut dire que dans les pays, regardons factuellement, il y a plus de 50 pays en Afrique, il y en a 54. Dans cette zone de franc CFA, il y en a 14, d'accord ? Est-ce que les pays qui n'ont pas de franc CFA s'en sortent mieux, à zone égale ? Est-ce que la Guinée, qui a sa propre monnaie, est un pays qui économiquement s'en sort mieux? Non. Est-ce que c'est un pays...
Ou moins bien, vous voulez dire.
Ou est-ce que c'est un pays qui aussi, à contrario, battant sa propre monnaie, est un pays démocratique ? Politiquement. Je parle de encore une fois, quand Sékou Touré est parti avec perte et fracas, etc. Est-ce que 50 ans de dictature...
D'ailleurs, rappelons que lorsque Sékou Touré a quitté,
absolument,
a demandé son indépendance, De Gaulle avait noyé la Guinée de fausses monnaies.
Il y a eu le rapt de la monnaie, de l'argent de la Guinée, etc.
Un scandale
énorme. Mais ceci dit, regardons les autres pays, le Kenya qui s'en sort bien, le Nigeria qui a contrario s'en sort moins bien, mais pour d'autres raisons.
Donc en fait, le problème, c'est qu'il faut que ces pays africains s'entendent entre eux.
Il faut que non seulement que ces pays africains s'entendent entre eux, mais ou pas. Peut-être qu'individuellement, chacun devrait reprendre sa propre monnaie, pourquoi
d'accord.
Si une chose est claire, c'est que ces enjeux structurels économiques sont pas qu'économiques, ils sont aussi politiques, ils sont protéiformes, et ils doivent être non seulement discutés et décidés à l'aune de chaque pays, parce que chaque pays a sa propre réalité économique, politique et structurelle. Ça tombe sous le sens.
30 secondes pour réagir, David.
Nous avons déjà la BCAO, l'Union économique et monétaire, qui est un espace de coopération. Mm-hmm. Donc les gens ont appris quand même à gérer, même s'ils n'ont pas le pouvoir de battre monnaie. C'est la même chose à la BEAC, à la Banque centrale d'Afrique centrale.
Ah, oui.
Donc déjà,
on a les structures.
On a les structures. Maintenant,
il faut
pouvoir gérer, avoir la politique monétaire et c'est une question de souveraineté, comme on l'a dit.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Fatimata Wansanya, Pierre Benoît et David Chambiano, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites de RFI et de TV5 Monde, site internet. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.